dire de notre monde, de leur monde. Une heure, chaque jour, une classe, un thème, ils ont tout imaginé et ils vont sans doute vous étonner.
C'est la voix des enfants sur la première.
C'est la classe. Une émission réalisée par les écoliers de Suisse romande. Un projet de Florence Farion et Tania Chitil. Aujourd'hui...
Énervé, c'est nous.
On est la radio-télévision du cycle d'orientation de la Veveyse.
À l'extrême sud du Caclon, du canton de Fribourg.
On a à peu près 14 ans, mais pas tous les jours. Pour nous, la vie, c'est la classe.
Bonjour. Aujourd'hui, on change le programme. Nous sommes Énervé, la radio du CE de la Veveyse, et nous prenons les commandes pendant une heure. Une heure de radio, mais pour dire quoi? On s'est bien pris la tête. On voulait vraiment quelque chose d'intéressant, mais quoi? On a choisi de parler de la vie du point de vue des ados. Alors, on s'est posé la question, vivre, c'est quoi? Évidemment, c'est une question compliquée, infinie même. Il a fallu trancher. Nous avons fait des choix. 5 éléments de réponse, 5 aspects de la vie qui, je l'espère, sont pertinents. Je vous propose de commencer avec le premier thème choisi, réussir et échouer. Dans la vie, tout le monde espère réussir, on est bien d'accord. Réussir, malgré l'échec qui nous guette. Et l'échec, lorsqu'il survient, il faut bien vivre avec. Je passe la parole à Noah, Naïm et Simon, qui vont vous partager leur vision de la vie.
Est-ce que réussir sa vie, ça commence dès l'école? Toute la journée, on nous répète « Si tu travailles bien à l'école, tu auras une vie réussie ». Mais est-ce que c'est vrai? Le nombre de choses qu'on y apprend qui nous serviront, la plupart à rien, à part dans « Qui veut gagner des millions ». Vous allez me dire, mais c'est pas vrai. Mais dites-moi, quand est-ce que savoir la date de la mort de Marco Polo vous servira si vous n'êtes pas historien? C'est l'endroit où on décide si on fait PDG ou rêveur professionnel. L'endroit où on commence à réussir ou échouer sa vie. Mais pour moi, c'est pas ça. Est-ce qu'il faut nécessairement avoir 6 en allemand pour réussir sa vie? Je pense que ça revient à la question du lait avant ou après les céréales. Chacun a son opinion.
Mais pour le moment, prenons un exemple concret, Monsieur Edison. La lumière qui a inventé l'ampoule est née en 1847. 7 ans plus tard, Edison se fait renvoyer de son école pour hyperactivité. Il apprend en autodidacte et à 12 ans, il trouve un job dans un train qu'il va faire flamber par accident avec du phosphore. L'Edison Electric Light Company, fondée évidemment par Edison, va produire en 1881 une ampoule incandescente avec filaments de carbone. Puis l'année d'après, la première centrale électrique au monde. Il dira « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas ». Il décédera des années plus tard, le dimanche 18 octobre 1931, à l'âge de 84 ans.
D'après ce qu'on vient d'écouter, réussir sa vie, c'est pas forcément réussir à l'école. Mais c'est quoi du coup? Quoi de mieux que demander l'avis de nos profs?
Pour moi, réussir dans sa vie, c'est accomplir ce qu'on souhaite ou atteindre un but. Et pour cela, par exemple, moi, c'était d'être enseignant. J'ai mené tout ce que je pouvais pour arriver à ce but-là. Et réussir dans sa vie, c'est aussi, c'est pas que l'argent, c'est tout ce qui est à côté, la famille, les amis et tout le monde qui nous entoure. C'est important et ça nous permet de réussir dans notre vie et d'être épanoui le mieux possible.
Réussir dans sa vie, ça, c'est une bonne question. Alors, je pense que réussir dans sa vie signifie tout simplement être heureux avec les choix que l'on a faits. Voilà, tout simplement.
La définition pour moi de réussir sa vie, ce serait clairement pouvoir faire un arrêt sur son instant présent et se dire qu'on est pleinement à sa place, qu'on a réalisé exactement ce qu'on avait envie de réaliser, être fier de son parcours et puis se sentir vraiment juste bien dans l'instant présent.
Réussir sa vie, je pense que chacun a une définition différente. Moi, je crois que l'essentiel, c'est d'aimer, c'est d'apprendre et c'est, sans le prendre au pied de la lettre, chanter. Et quand on arrivera à son dernier souffle, si on peut se dire qu'en regardant sa vie, on a fait ce qui était proche de ses valeurs, et puis qu'on peut s'en aller serein, ça, ce sera une vie réussie.
C'est la classe, la radio faite par les enfants.
Parfait. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Pascal Richard, un ancien cycliste suisse qui, à mon goût, a vraiment réussi sa vie. Il a été champion olympique de cyclisme sur route en 1996 et il commence par nous parler des échecs dans la vie.
L'échec fait partie de la réussite. et j'ai eu beaucoup d'échecs, mais j'ai eu aussi beaucoup de succès. Mm-hmm. Donc, mais des échecs de la vie qui fait que vous devez toujours vous remettre en question. Rien n'est acquis dans la vie. Et puis vous les avez à tout âge. Et un échec ne doit pas être toujours, je veux dire, négatif.
Oui.
Et ce que je dis aussi, un échec, ben, faut être aussi dans l'acceptation d'un échec. Ça veut dire on a crevé, on a eu le malheur. Ça fait partie de l'échec, mais qui va reconstruire aussi la réussite, de dire peut-être on a crevé, mais pourquoi ? Parce que j'ai pas été bon. J'ai pas été placé, comme on dit, c'est comme un circuit de moto ou de Formule 1. On va pas sur les extérieurs, on suit la ligne, et puis voilà. Donc, des fois, c'est pas un échec qui est, je peux dire, constructif ou négatif, c'est un échec qui est tout simplement la fatalité. Voilà.
Aujourd'hui, à 58 ans, plus de 20 ans après avoir arrêté votre carrière, est-ce que vous pouvez dire que vous avez réussi votre vie et pourquoi ?
C'est très subjectif. Hein. Mm-hmm. C'est pas parce qu'on a fait certaines choses que c'est une certaine réussite. La réussite peut être aussi basique. Hein. La réussite, je pense, aujourd'hui, personnellement, ben, c'est d'être heureux. À n'importe quel niveau, c'est pas le regard des gens extérieurs qui fait votre réussite. Et c'est ce qu'on a l'impression d'avoir fait des choses qui est une réussite. Non, je pense que la réussite de chacun, c'est d'être heureux, de s'en aller quand on a l'esprit heureux, puis dire, même aujourd'hui, je pourrais m'en aller demain, je suis heureux, quoi. Et c'est là le phénomène de dire, on a accompli de très belles choses, c'est en plus, mais il y a des gens qui ont accompli de très belles choses et ne sont pas heureux. Donc voilà la réussite. À chacun sa réussite.
C'est la classe, la radio faite par les enfants.
La vie est donc faite d'échecs. Mais que se passe-t-il dans votre tête quand vous passez la ligne d'arrivée et que vous êtes champion olympique ? Écoutez, ça vaut la peine.
Je sais pas, je suis pas une femme, mais quand une femme accouche, c'est une délivrance, quoi. Et je vois dans la douleur, dans l'effort, dans... on pleure, on rit, et c'est un peu ça, quand vous passez, quand vous gagnez, c'est des courses que les plus grands coureurs ont gagnées, quoi. Donc vous êtes là, et puis je sais quand j'ai passé l'année d'arrivée, j'ai dit nom de Dieu, j'ai gagné les Jeux Olympiques.
C'est
quelque chose de... On s'en rend bien compte que avec le temps ou la souffrance ou je pourrais dire les sacrifices qu'on a fait pour arriver à ce stade-là, voilà, que nous seuls on peut apprécier ce moment-là et on sait pourquoi. Voilà.
Et à quel moment dans votre course vous saviez que vous alliez gagner ou bien que vous pensiez à la victoire déjà ?
Une victoire, ça se prépare effectivement. C'est pour ça qu'il y a cette délivrance à l'arrivée. C'est parce que tout a fonctionné. Et je ne peux pas dire on pense à la victoire, ça serait mettre la charrue avant les bœufs. On doit construire cette victoire, ça soit à 100 mètres la ligne, on doit encore la construire. Ça veut dire on doit mettre toutes les choses, c'est une chaîne. On a besoin de tous des maillons pour que ça soit la finalité de cette chaîne. Et de dire je vais gagner avant, c'est prétentieux. C'est ce qui fait la boule au ventre quand vous êtes à 100 mètres de la ligne encore. Puis je dois donner encore le dernier coup de rein. Allez, vas-y, putain, il faut... Sortons les tripes.
Ouais.
Et c'est quand on passe à la ligne, c'est là... on a tout donné. Et puis c'est pour ça qu'il y a cette extase, la finalité. De dire, je vais gagner avant. D'y penser, c'est même... ça fait partie de cette construction, mais ça serait prétentieux de dire, je vais gagner.
Ouais.
Je vais pour gagner, c'est une autre chose. Ce qui est très important quand on construit quelque chose, il faut penser à tous les paramètres. Ça veut dire pas que le positif mais le négatif. Qu'est-ce que je ferais s'il m'arrivait ceci ou cela? Voilà.
C'est la classe.
On fait de la radio comme des pros.
La radio faite par les enfants.
Mais après tout ça, on pourrait pas dire que chacun a son avis sur ce qu'est réussir sa vie ? C'est vrai, pour moi, c'est terminer dans son cercueil et se dire « t'es bien rempli ».
Et pour moi, je pense que réussir ma vie, c'est tout simplement d'avoir accompli mes objectifs et d'en être fier. Eh ben, on termine avec notre champion olympique Pascal Richard qui nous donne une petite recette pour réussir sa vie.
Je pense que le premier conseil, c'est de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Après, la deuxième chose, qui est un peu moins, je pourrais dire, facile à interpréter ou à appliquer, c'est la discipline. Il faut être discipliné. On ne peut pas être farfelu. Hein. Attention, on peut montrer qu'on s'amuse, qu'on a du plaisir, mais on ne peut pas être farfelu. Il faut être hyper discipliné. Il faut avoir une force mentale hors norme. Et pour les jeunes, de ne pas commencer trop vite. J'ai commencé très tard, mais avec une certaine volonté, avec un certain objectif. Je dirais ça aussi aux parents, de ne pas trop vouloir être professionnel dans le jeune âge. Ça vous permettra d'avoir beaucoup plus, je pense, de volonté et de force mentale plus tard. C'est la passion qui l'emporte. Et la passion, le plaisir, vous fait des grandes choses dans tous les domaines.
C'est la classe.
La radio, c'est du boulot, mais on aime bien.
Alors maintenant, on va vous parler du suspense. Alors, on a vu que vivre, c'est réussir et échouer. Mais vivre, c'est bien sûr aussi le suspense. Ce suspense, parfois, peut devenir lourd à porter. Mais pourtant, il faut apprendre à vivre avec. Thomas et Théo, pour eux, la vie, c'est le suspense. Comme dans les films.
C'est ça qu'on aime au cinéma, lorsqu'on a peur pour nos héros.
Dans la vie aussi, on ne sait pas toujours ce qui va nous arriver. Et ce n'est pas toujours facile de vivre sans savoir ce qui nous attend.
C'est le stress parfois, de vivre avec l'inconnu, l'incertitude.
Ne pas avoir le contrôle de tout. Parfois, j'ai l'impression que c'est encore plus fort de nos jours avec la guerre en Ukraine. On ne sait pas trop. On nous dit que ça pourrait mal tourner. Évidemment, le suspense, c'est l'inconnu, l'imprévu. Par exemple, la maladie ou les accidents. En fait, on ne sait jamais ce qui va nous arriver.
Parce que nous n'avons pas toujours toutes les cartes en main.
Le suspense, c'est tous les jours, tout le temps.
Nous sommes partis à la rencontre de Michel Demierre, qui était atteint d'une grave maladie au cerveau, l'encéphalite.
L'incertitude, l'imprévu, il l'a vécu car, sans prévenir, la maladie a failli l'emporter.
Je suis tombé malade, comme une grippe, pendant une journée. Et durant la nuit, on m'a retrouvé dans le coma, dans le couloir de la maison.
Comment avez-vous fait pour vous en sortir ?
Il faut travailler, faire ce qu'il faut pour y arriver. Et puis surtout, il faut avoir des bons médecins, des bons hôpitaux, des bons thérapeutes.
Vous êtes passé tout proche de la mort. Qu'est-ce que ça vous fait de penser qu'aujourd'hui, vous pourriez ne pas être là ?
C'est pas facile, en fait. Pas facile. Quand j'ai compris que j'ai failli mourir, je comprenais pas pourquoi je vivais aussi, simplement. C'est quelque chose de vraiment bizarre comme sensation.
Avec ce qui vous est arrivé, j'imagine que vous savez ce que ça fait de vivre sans savoir si vous allez vous réveiller le lendemain.
Je vais vous dire quelque chose. Quand je suis tombé malade, je ne savais pas que j'étais malade durant 3 mois.
Ah.
En fait, c'était plus difficile pour mes proches de me voir gravement malade. J'ai été dans le coma, j'arrivais plus à parler. Et franchement, je me souviens de rien au début. Quand je me suis souvenu, ça faisait 3 mois que j'étais hospitalisé.
Mmh. Ouais. Tout a changé.
Oui. Puis après, quand on est hospitalisé, le lendemain, franchement, c'est pas la chose à quoi on pense.
Ça vous arrive de penser à votre vie d'avant ?
Oui. En fait, je vois souvent ce que j'arrive pas encore à faire aussi bien qu'avant. Puis il y a des choses dont je me rappelle plus trop, puis c'est assez dérangeant de pas savoir. Mmh. Du reste, quand j'étais à l'hôpital, pour mon anniversaire, on m'avait offert un livre avec des souvenirs. Et j'arrivais même plus à le feuilleter parce qu'il y avait des choses dont je ne me souvenais plus.
Aujourd'hui, que retenez-vous de cette expérience ?
Je préfère regarder l'avenir plutôt que de penser à ce qui m'est arrivé. Mm-hmm. Parce que, alors, il y a des choses physiquement pas agréables, des choses psychologiquement pas agréables. Donc moi, je préfère regarder l'avenir et puis surtout regarder les progrès.
Il faut continuer d'avancer, oui.
Exactement.
Comment avez-vous fait pour revenir du statut de presque mort à la vie active?
C'est un long chemin, des petits progrès les uns après les autres. Et quand j'étais à l'hôpital, quand je comprenais ce qui m'arrivait, je voulais juste pouvoir rentrer à la maison et remarcher. Mmh. En fait, plus on progresse, plus on a envie de faire mieux, davantage de choses. Oui. Il y a des sortes d'objectifs que je me suis fixé et que j'ai heureusement pour moi atteint. Et maintenant, j'arrive à refaire les loisirs que j'aime. J'arrive à travailler, même si je suis encore en reprise professionnelle. Je suis avec ma famille. C'est beaucoup mieux que ce que j'espérais au début.
Est-ce que vous aurez une anecdote à nous raconter ?
Ce qui m'a un peu sauvé, c'est les thérapies animales. J'arrivais plus à marcher et j'ai réussi à remarcher avec un mouton. Et c'était un de mes meilleurs thérapeutes. C'est assez fou parce que si vous faites des exercices en physio avec des machines, si vous faites la même chose avec des animaux, vous ne vous rendez même pas compte que vous faites les exercices. En plus, psychologiquement, c'est différent d'être avec un animal.
Maintenant que vous allez mieux, est-ce que vous avez des hobbies ou des passions ?
Moi, il y a un domaine qui m'attire beaucoup, c'est la spéléologie. Donc, la découverte, l'exploration. Et en plus, on a la chance dans le canton de Fribourg d'avoir plein de cavités. Par exemple, dans les montagnes, juste derrière le CO, il y a plein de gouffres et de grottes. Donc, pas très loin de chez moi, je peux trouver ce qui me plaît comme loisir.
C'est la classe, la radio faite par les enfants.
C'est là qu'on voit qu'un rien peut changer notre vie d'une seconde à l'autre.
Ce qui m'impressionne, c'est que, vu de loin, on dirait que rien ne lui est arrivé. C'est fou comment elle a réussi à passer du coma à une vie presque normale. Et tout ça, grâce à des médecins talentueux et un mouton. Du coup, une pensée à eux.
Finalement, la vie, c'est du suspense. Ce n'est pas toujours facile à vivre. Mais c'est peut-être ça qui donne du sens à notre existence.
Mais son histoire, c'est aussi un rappel. Il est parfois facile d'oublier qu'un accident ou une maladie peut toucher tout le monde sans prévenir. Quand l'imprévu frappe, on n'a pas le choix de vivre avec. Nicotie, c'est l'invité de notre prochaine partie. Pour elle, vivre, c'est toujours s'adapter. Nous, les ados, on fait que ça, s'adapter. S'adapter à la confiscation de notre natel, ou au repas pas toujours géniaux de la cantine, ou à nos méchants profs. À cette vie suisse un peu trop coincée pour nous. Alors nous, on aime bien râler et se révolter, mais on est conscient bien sûr que s'adapter peut prendre un sens bien plus lourd. Mirella et Benjamin, c'est vous qui avez invité Nicole T.
Elle est écrivaine et conseillère communale. Madame T a dû s'adapter suite à un accident qui lui a coûté une jambe.
C'est survivre parce que c'est le sursaut qui permet justement de s'adapter à cette nouvelle situation. Donc survivre, ça peut paraître un peu fort comme terme parce que c'est dans les premiers temps, mais en même temps, ça montre à quel point il faut avoir cette capacité d'adaptation et c'est sans cesse, c'est même sans être confronté à un tel événement qui est un bouleversement dans une vie, on va devoir s'adapter.
Dans le sens métaphorique, vivre sur une seule jambe, c'est fragile, c'est difficile, peut-être même c'est impossible. Est-ce qu'il vous arrive encore aujourd'hui de vous sentir non seulement amputé d'une jambe, mais aussi d'une partie de votre vie ?
Une partie de ma vie, certainement, puisque j'ai dû faire le deuil de pouvoir, par exemple, porter des talons. Ça peut paraître très futile, mais ça faisait partie de moi à l'époque. Donc j'étais une jeune femme de 21 ans. Et puis, survivre et s'adapter ensuite, ça veut dire surtout mettre l'accent sur ce qui me permet encore de poursuivre ma vie. J'ai perdu quelque chose, mais j'ai gagné une seconde vie.
Est-ce qu'il vous arrive de vous dire parfois qu'en réalité, vous n'avez pas réussi à vous adapter ?
Non, je pense pas. J'ai eu la chance très très rapidement de me rendre compte que j'avais la chance d'être encore là, d'être encore en vie. Dans ce sens-là, je me suis sans cesse adaptée. Très rapidement, j'ai rencontré l'homme qui est devenu le père de ma fille. Donc j'ai été enceinte en étant amputée, en étant debout avec cette prothèse. Donc j'ai dû m'adapter aussi, par exemple, à la prise de poids, parce que c'est un secret pour personne, quand on est enceinte, on prend du poids. Et puis, pour vous, si vous prenez ou vous perdez du poids, ça veut dire que vous changez juste de taille de vêtements. Par contre, quand on a une prothèse, ça veut dire qu'il faut adapter l'emboîture à cette prise ou à cette perte de poids. Donc s'adapter, c'est vraiment le verbe qui m'accompagne depuis 31 ans, en tout cas, mais encore plus, disons, depuis 31 ans.
Vous êtes courageuse. Nous avons une dernière question. En pensant au climat, en voyant les nombreux conflits et guerres civiles, en voyant le coût de la vie exploser et tout le monde autour de nous nous demande de nous adapter, ça a l'air impossible. Comment est-ce qu'on va faire pour s'adapter à tout ça ?
C'est une très bonne question et qui renvoie en fait à l'individu. De manière collective, on va devoir s'adapter à cette situation. Ce qui est merveilleux avec l'être humain, c'est qu'on est unique. Ben, chacun, à son niveau, doit pouvoir se rendre compte de ce qu'il est en mesure de faire pour l'effort collectif.
La radio, c'est du boulot, mais on aime bien.
Mirella, je ne sais pas toi, mais moi, je n'ose pas imaginer ce que ça fait de perdre une jambe. J'en ai des frissons rien que d'y penser.
Tout à fait. Personnellement, moi, j'ai été impressionnée par la bravoure de Madame T. Avant de faire cette interview, j'étais anxieuse à propos de beaucoup de choses. Je trouvais que le monde, les gens autour de nous, nous en demandaient beaucoup trop. Alors ce qu'a fait Madame T, se sortir d'un accident avec une seule jambe, se relever et trouver la force de continuer sa vie, d'avoir un enfant, d'écrire un livre et de s'engager en politique, ça me redonne de l'espoir.
Avant de terminer, nous avons une invitée surprise. Voici Thaïs qui est élève au cycle d'orientation de la Veuvez. Pour elle, s'adapter, c'est son quotidien. Bonjour Thaïs.
Bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous dire merci. Témoigner sur ce sujet me tient à cœur. Au CO à Châtel-Saint-Denis, je suis dans le niveau le plus bas. Être dans cette catégorie à l'école, ce n'est pas toujours facile. On se fait souvent critiquer et on n'est jamais à la hauteur que les autres. C'est comme s'il nous manquait toujours quelque chose. D'ailleurs, pour les places d'apprentissage, c'est beaucoup plus compliqué pour nous. On nous met simplement de côté. On dit qu'on est moins intelligent que la moyenne. Ce que j'aimerais vraiment, au lieu de toujours devoir m'adapter, c'est que tous les élèves soient enfin à l'égalité. On devrait tous pouvoir faire des études ou faire le même métier qu'on veut. J'en ai marre de m'adapter à cette situation. J'aimerais que ça change.
Je vous propose à présent une petite pause pour se remettre en écoutant Brothers de Caudaline.
We were young, we were the ones, the kings and queens, oh yeah, we ruled the world. We smoked cigarettes, man, no regrets, wish I could relive every single word. We've taken different paths and traveled different roads. I know we'll always end up on the same one when we're old. And when you're in the trenches and you're under fire, I will cover you. If I
réussir et échouer, vivre c'est le suspense, et vivre c'est s'adapter. Mais vivre c'est aussi les montagnes russes. En pensant à la vie, mais aussi à la mort, en pensant au bonheur, mais aussi au malheur. Pour moi, les montagnes russes, il y a un seul exemple, et c'est le Silver Star à Europa Park. À chaque fois que j'y vais, j'ai la peur de ma vie, mais quand c'est fini, pourtant j'ai qu'une envie, c'est de recommencer. Johan et Alistair, il est temps que les auditeurs et auditrices montent sur vos montagnes russes. Mais attention, ramenez-les-nous sains et saufs.
Je ne sais pas comment vous vous sentez, vous, lorsque vous montez sur ces manèges qui montent et qui descendent bien souvent trop vite. Certaines personnes adorent et d'autres vomissent leurs tripes. Sous certains égards, on pourrait dire que la vie, c'est un peu la même chose, surtout du point de vue émotionnel. Il y a des jours où tout est génial, où la vie est belle, et d'autres moments où tout est noir, compliqué. On a l'impression qu'on est dans le mur. En plus, tout peut changer en un éclair. Je suis heureux, et je suis malheureux. Je suis aimé, et on me déteste. Je vis, et je meurs. Pour nous parler de ces yo-yo qui donnent le tournis, il nous fallait quelqu'un qui doit vivre ou survivre à ce phénomène tous les jours. Et nous avons pensé à Monsieur Bongard. Monsieur André Bongard dirige une entreprise de pompes funèbres à Châtel-Saint-Denis. Il est donc confronté au creux de la vague tous les jours. Vous allez l'entendre, les montagnes russes, c'est son quotidien. Et heureusement, tout n'est pas que du négatif.
Carousel de folie, j'adore. D'ailleurs, juste après mes 50 ans, j'avais été au pont du Nuque, faire un saut à l'élastique, voilà, des choses comme ça.
Vous arriveriez à nous donner quelques exemples que cette image de montagne russe amène chez vous?
Cette image de montagne russe, ça m'amène, certaines fois, l'apaisement. L'apaisement, et des fois, c'est malheureusement un peu le stress. Donc, vous avez bien choisi le thème, parce que c'est vraiment des montagnes russes. On peut être deux jours où on accompagne, et puis après, tout pour un coup, il y a beaucoup de deuil, beaucoup de famille. Donc, nous, on doit toujours s'adapter. Je vis un peu, quand même, avec le stress. Je ne parais pas, mais je suis un peu stressé, des fois.
Il doit y avoir des hauts et sûrement des bas dans votre métier. Pourriez-vous nous donner quelques exemples de hauts et quelques exemples de bas?
Je dis toujours, ça va vous faire rire, je m'appelle moi-même, je dis, ben je suis le taxi du ciel. Taxi du ciel, voilà. Il y a des hauts, il y a des bas. Les bas, je dis toujours, il faut que je continue. Donc, quand je rentre, que j'ai terminé avec une famille, malgré le cœur que j'ai eu pour eux, je dis toujours, on efface le tableau noir. Les hauts, la particularité dans les hauts, c'est que, comme je le disais avant, j'adore mon métier. C'est ce contact avec les familles, c'est de l'amitié qui se lie après nos services. Et tout ce contexte, je veux bien dire, je l'aime bien.
Vous, vous voyez la mort de très près tous les jours. C'est quoi la mort pour vous?
La mort, c'est clair, c'est la fin d'une vie. Mais la vie, elle est peut-être dans l'au-delà. Je pense que chaque famille aussi, nous aussi, on garde dans notre cœur ce qu'on a vécu avec la mort. La mort, c'est une fin, mais ça peut être aussi une délivrance. Une délivrance, ça veut dire que je m'occupe des fois des personnes malades que j'ai connues et qui ont beaucoup changé et que la maladie a vraiment fait souffrir. Donc, certaines fois, c'est une délivrance. Et des fois, il y a du tragique. Le tragique, ça peut être les gens qui sautent la vie, ça peut être un accident. Et là, la rupture, la séparation, le dernier adieu, c'est très compliqué pour les familles.
Et les personnes que vous mettez dans le cercueil, vous pensez qu'elles vont où après la mort?
Elles vont où après la mort? Moi, je pense qu'il y a de toute façon autre chose. Hein. Il y a l'après la mort. Hein. Il y a une phrase qui dit « Je ne suis plus de ce côté, je suis de l'autre côté, sur l'autre rive. » Après, dans mon travail d'accompagnement, je dirais, je ne prends pas de position. Et chacun ses convictions. En 30 ans, justement, j'ai eu beaucoup de changements par rapport aux attitudes des personnes qui accompagnent, des familles. Chacun ses croyances, mais l'important, je pense que pour une personne décédée, c'est comme toujours, tant qu'il reste dans notre cœur.
Moi, personnellement, la mort, je ne sais pas encore trop quoi y penser. Peut-être parce que je n'ai pas encore beaucoup d'expérience, je suis encore jeune. Mais vous, est-ce que vous avez peur de la mort?
Quand j'étais gosse, j'avais peur de la mort. Et puis, maintenant, avec tout l'accompagnement que j'ai fait, malgré que je suis... J'ai pas 60 ans, j'ai 58 ans. J'ai pas peur de la mort. Je dis toujours, je vexe un peu ma famille, mais je leur dis toujours, vous savez, il m'arriverait quelque chose, je suis prêt.
Comment est-ce que vous faites le soir en rentrant pour garder le sourire?
Je dirais qu'une fois qu'on a tout terminé, on a toujours dans nos garages, hein, ça paraît drôle, dans une entreprise pompes funèbres, un petit moment où on parle et puis voilà. Et ça nous aide beaucoup, on a beaucoup de dialogue dans notre entreprise.
Vous recevez très souvent des familles en pleurs qui viennent de perdre un proche. Est-ce que le malheur de vos clients, est-ce que ça vous affecte aussi personnellement et de quelle manière?
J'ai fait des services pour ma parenté, j'ai fait des services pour mon filleul par exemple, tout ça. Alors oui, ça m'affecte. Le tableau noir, comme je disais tout à l'heure, il faut l'effacer. Autrement, je ne pourrais pas continuer à faire ce métier que j'adore, parce que cet accompagnement des familles et des personnes endeuillées vraiment me tient à cœur. J'aime bien ce dialogue avec eux.
Pour terminer, la grande question à laquelle nous essayons de répondre dans cette émission, pour vous, vivre, c'est quoi ?
Pour moi, vivre, c'est pas que la profession, c'est m'échapper aussi de temps en temps de ce contexte, parce que nous, on a tout dans notre vie là où on habite, des chapelles funéraires, on est séparés, mais tout est appendu quand même. Moi, vivre, c'est de m'échapper de temps en temps. D'ailleurs, en début d'année, j'en avais, voilà, on est entre nous, j'en avais un peu marre. J'avais jamais vu le Cervin. Eh ben, je suis parti 3 jours tout seul à Zermatt parce que j'avais besoin de me ressourcer. J'adore ce contact avec les familles, comme j'ai dit, mais il faut de temps en temps aussi faire un vide, même avec mes collègues, mais malheureusement, même aussi avec mon épouse, on m'a laissé partir. Et ça, c'était le plus grand bien que j'ai pu avoir pour moi.
Quand on m'a dit que j'allais parler avec le directeur des pompes funèbres, je pensais que ce serait glauque. En tout cas, monsieur Bongard, vous m'avez montré que votre vie est pleine de ce bonheur. Nous, les ados, on vit tous les jours des montagnes russes. Il y a par exemple les notes à l'école. On peut en avoir de très bonnes et être heureux, et le lendemain être triste parce qu'on en a eu une mauvaise. On peut tomber amoureux pour la première fois et quelques instants plus tard se faire larguer. On peut être aimé ou être détesté. On peut vivre heureux avec l'urgence climatique ou être un éco-anxieux. On peut monter sur un carrousel et vivre l'ivresse de ces montagnes russes comme des gamins, ou y monter et devenir vert et presque mourir. Ce que je retiens de votre témoignage, c'est qu'on peut toujours s'échapper du malheur et que c'est important. Oui, malgré le négatif, il est toujours possible de partir faire autre chose sans se soucier du reste. Moralité, la vie est une montagne russe sur laquelle chacun peut trouver son compte. Merci à notre taxi du ciel, monsieur Bongard, d'être venu répondre à nos questions.
Avant la partie finale de notre vivre, c'est quoi ? Cette fin en apothéose, écoutant Le Temps de Vita et Slimane.
Embrasser mes enfants, les serrer dans mes bras, et leur dire que maman ne sera pas toujours là, qu'ils veillent l'un sur l'autre et qu'ils n'oublient pas. S'ils font des erreurs, Dieu les pardonnera. Chanter à ma mère comme elle va me manquer, lui dire que son fils l'a toujours aimé, que j'ai vécu pour elle même quand je ne disais rien. Je n'ai voulu qu'une chose, qu'elle ne manque de rien. Me blottir contre lui, à lui couper le souffle et lui dire qu'avec lui je n'ai pas l'ombre d'un doute, que la vie est si belle assise à ses côtés. Je lui serai fidèle même de l'autre côté. Je jetterai au feu ma putain de fierté. Je dirai à ma belle que je me suis trompé, que je n'ai plus peur de lui faire un enfant. Je n'avais plus peur mais je n'ai pas eu le temps. Que j'ai sur le cœur, il ne devrait pas s'éloigner de sa sœur. Qu'il a tort de penser que la vie nous sépare. N'étions-nous pas censés rester proches au départ? Je retiendrai mon ami avant qu'il soit parti. Je lui dirai de se calmer et de rester chez lui. Surtout qu'il ne suive pas ce mec dans la nuit, qui lui fera du mal et lui ôtera la vie. On aimerait tous avoir le temps, mais qu'est-ce que le temps quand on n'en a pas? On donnerait tout, mais pour autant, ce n'est que du vent si l'on ne sait pas. On aimerait tous avoir le temps, mais qu'est-ce que le temps quand on n'en a pas? On donnerait tout, mais
pour... Pour la dernière partie de notre émission, qui est sans aucun doute le plus beau, vivre, c'est l'amour.
On a gardé le meilleur pour la fin, le sujet qui nous titille, nous émoustille, nous fait causer, nous fait rêver, voire même nous fait pleurer. Tu sais de quoi je parle, Célia ?
L'amour avec un grand A, c'est ce truc que l'on découvre. On regarde de nos parents et des films d'amour. On se dit que ça doit être vachement bien. Puis en même temps, On a nos copines qui pleurent dans nos bras quand tout est fini et que rien ne peut les consoler. On a déjà compris que c'était un truc compliqué, mais qu'on n'allait pas y échapper. Pour s'aider, on a regardé dans le dictionnaire. La définition, c'est...
D'après le Robert, l'amour est un substantif féminin. Et oui, c'est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider, à s'identifier plus ou moins.
Bon, on n'est pas très avancé. Je vous propose donc qu'on se tourne vers une pro de l'amour pour répondre à nos questions. Bonjour Madame Gallet.
Bonjour.
Vous êtes formatrice à la Fondation Profa. C'est une fondation du canton de Vaud. Vous pouvez nous présenter Profa de manière plus précise ?
Alors, comme vous l'avez dit, Profa, c'est une fondation du canton de Vaud qui, en fait, accompagne tout ce qui est en lien avec la vie affective, la vie relationnelle, la vie sexuelle. Et puis ça, pour toutes les personnes, à chaque âge de la vie, en fait. Et puis, peut-être pour préciser, la Fondation Profa est composée de plusieurs services, dont notamment l'éducation sexuelle, qui est le service où les personnes vont dans les écoles faire les cours d'éducation sexuelle. Et puis aussi, par exemple, la consultation de santé sexuelle, qui est ouverte à tout un chacun pour venir discuter de l'intimité, de la sexualité, de l'amour aussi.
Merci. Le titre de notre chronique, c'est « Vivre, c'est aimer ». Quel écho cette phrase amène-t-elle chez vous ?
Un grand écho, je pense. Vivre, c'est aimer, oui, je pense. Je dirais que c'est une pulsion de vie, l'amour. Donc c'est quelque chose qui nous fait aller de l'avant, qui nous met en mouvement. Et que ce soit aimer quelqu'un, une personne, ou que ce soit aimer ce qu'on fait dans la vie. Donc c'est quelque chose qui nous met en mouvement et c'est quelque chose de beau, finalement.
Merci, c'est une très bonne vision des choses, je trouve. Nous, on est des ados, et vous allez l'entendre, l'amour, c'est un peu notre vie. On est allés sur le terrain pour interroger toute une série de nos camarades du CO de la Veuvez. Et on leur a demandé comment c'était la vie amoureuse pour eux. La première question qu'on a posée, c'est « Es-tu amoureux ? » « As-tu déjà été amoureux ?»
« Oui, plusieurs fois. »
« Ouais. »
« Et est-ce que tu es amoureux, là, maintenant ?»
« Ouais, je le suis, ouais. »
« J'ai déjà été amoureuse, mais alors est-ce que je suis amoureuse là, maintenant ? » Je sais pas. Je pense que je suis encore amoureuse de cette personne, mais que j'essaye de m'en remettre. »
D'accord, c'est compliqué, hein.
En effet.
As-tu déjà été amoureuse et l'es-tu maintenant ?
Oui, maintenant, en ce moment même. Je dirais que je suis amoureuse.
Alors, j'ai déjà été amoureuse il y a quelques années et actuellement, je peux pas dire que je suis vraiment amoureuse, mais j'aime bien une personne en particulier, oui.
Ouais, j'ai déjà été amoureuse, mais pas maintenant, parce que non, voilà.
C'est beau comme sentiment, n'est-ce pas ?
Alors c'est un beau sentiment qui est destructeur à la fois. Ça, c'est par exemple un amour non réciproque ou par exemple une rupture, ça fait toujours ultra mal. Mais par contre, en soi, l'amour c'est beau.
Non.
Jamais ?
Jamais. Enfin, je pense pas en tout cas.
Et tu crois qu'un jour on pourrait bien trouver notre âme sœur par contre ?
Oui, je pense tout à fait, mais je pense pas à 14 ans parce que on n'est pas du tout assez mature et on n'a pas du tout les mêmes attentes qu'une personne qui a par exemple 20 ou 25 ans, je pense.
Mais est-ce que tu penses que c'est inévitable ?
Je pense que il y a des personnes qui se correspondent plus que d'autres et donc chacun peut trouver la personne qui le correspond.
À quel âge peut-on réellement tomber amoureuse ou amoureux ? Et y a-t-il un âge précis ?
C'est une bonne question que je pose souvent quand je suis dans les classes justement avec les enfants aussi, les plus jeunes, à 6, 7 ans ou 10 ans. C'est de dire, est-ce qu'il y a un âge pour tomber amoureux ? Et quand on écoute les enfants, en fait, ils disent, non, moi j'ai déjà été amoureux ou j'ai déjà eu un amoureux, une amoureuse. Donc, je crois pas qu'il y ait d'âge. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que c'est différent d'être amoureux quand on est un enfant, quand on est un ado, un grand ado ou un adulte.
On l'entend, quand on est amoureux, il y a quelque chose qui se passe. On a l'impression de l'entendre dans notre voix. Est-ce que vous avez aussi cette impression ?
Ah oui, il se passe des choses. On est d'accord. En fait, il se passe plein de choses à l'intérieur de soi, que ce soit des sensations, des ressentis. Donc ça peut être le cœur qui bat, le fait de rougir des fois, avoir les papillons dans le ventre, comme on l'entend souvent. Donc il y a certains signes qui sont perceptibles de l'extérieur, les gens le voient, et puis d'autres qui sont très internes et que juste la personne qui les ressent va les ressentir finalement.
On parle d'être amoureuse ou amoureux. Moi j'ai 14 ans et mon voisin en a 16. Il a donc la majorité sexuelle. Est-ce que selon vous, on est prêt à faire l'amour plus à 16 ans ou plus avant ?
Ah, alors ça je crois que c'est très individuel. Ça dépend de chaque personne. Ce qui est important je pense pour être prêt à faire l'amour, c'est d'avoir... de se sentir prêt à plusieurs niveaux, souvent on dit. Parce que faire l'amour, ça engage tout notre être. Donc, il faut être prêt dans son corps, déjà, avoir eu la puberté, avoir grandi. Il faut se sentir prêt dans sa tête, avoir mûri aussi, s'être posé des questions, voir les conséquences que ça a de faire l'amour aussi. Et puis, être prêt dans son cœur, c'est-à-dire être bien avec la personne avec qui on est, avoir confiance, se sentir en sécurité. Et puis, la première chose, c'est déjà en avoir envie, le sentir, cette envie. Et puis, je parlerai aussi, quand on me pose cette question, c'est aussi de parler de consentement. Je pense que c'est hyper important, c'est-à-dire tout ce que moi je peux ressentir et l'envie que j'ai, c'est aussi que l'autre soit dans les mêmes conditions, puis qu'il y ait cette envie aussi. Donc, qu'on se sente libre dans ce qu'on fait, qu'on n'ait pas de contraintes, qu'on sache de quoi on parle, et puis qu'à tout moment on peut changer d'avis, puis qu'on soit enthousiaste dans ce qu'on a envie.
On parle de l'amour, de vivre, c'est l'amour, mais il y a une question qui est bien centrale à cette émission, c'est... En fait, c'est quoi l'amour? On écoute nos camarades du CO de Châtel.
L'amour, c'est le fait d'aimer quelqu'un ou d'être aimé par cette personne, d'avoir un lien amical ou vraiment amoureux, que le sentiment soit réciproque ou amicalement parlant, etc.
Pour toi, vivre, c'est l'amour en soi.
Pour moi, vivre, c'est l'amour, oui. J'adore l'amour et je pense qu'on ne peut pas vivre sans ça. C'est quelque chose qui fait partie du corps humain. Et pour moi, c'est... L'amour, c'est quelque chose d'incroyable.
L'amour, c'est quoi?
Aimer en se faisant aimer en retour.
Et aimer, c'est inévitable?
Ouais, ça arrive comme ça. Puis du jour au lendemain, bah, ça peut repartir comme ça peut arriver.
Je pense que c'est quand même quelque chose de cool. C'est quand même agréable. Mais quand ça se passe bien, parce qu'après, ça fait mal. Pour moi, c'est un sentiment que beaucoup idéalisent, surtout à notre âge. Parce que pour moi, il y a vraiment très peu de chances qu'on puisse trouver l'amour de notre vie à 14 ans parce qu'on n'a pas la maturité pour, je pense. Enfin, c'est ton autre moitié, donc je sais pas, elle te complète et vous comprenez bien, même plus que bien, du coup.
Je pense qu'il y a plusieurs sortes d'amour. Enfin, par exemple, on ne donne pas le même amour à son copain qu'on le donnerait à sa famille ou qu'on le donne à ses amis. Partager des choses, et puis voilà, je sais pas. C'est hyper vaste.
Moi, je pense que c'est un sentiment vif que quelqu'un éprouve pour une ou plusieurs autres personnes. Parce que, par exemple, quelqu'un peut aimer sa famille, ses amis, comme ça. Son chat.
Aimer, c'est la vie.
On reçoit Sabrina Gallet de la Fondation Profa. Comment avez-vous trouvé la définition des élèves?
Complexe. Je pense que c'est ça qui ressort, c'est que c'est des choses très personnelles et on a tous des définitions un peu différentes.
Chez Profa, comment on définirait l'amour? Comme les jeunes du CO viennent de le proposer ou pas forcément?
C'est une bonne question parce que j'ai quand même demandé à mes collègues avant de venir ici de savoir s'il y avait une définition commune chez Profa. Et je pense pas qu'il y ait de définition commune parce que comme on l'a vu, que ce soit... Quand on pose la question aux jeunes ou aux adultes ou chez Profa, c'est que tout ça, c'est très personnel. Il y a un côté un peu mystérieux dans l'amour. C'est quelque chose de pas très intellectuel. C'est plutôt du ressenti, des sensations. Ça s'élabore, ça évolue. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de définitions différentes.
L'amour, c'est vaste et ça a beaucoup changé au XXIe siècle. En amour aujourd'hui, c'est quoi la norme, pour autant qu'il y en ait une? On écoute les ados de la Veuvez nous donner leur avis par rapport à ces normes. Et après, on confronte leur version à la vôtre.
L'amour, ça se passe entre deux personnes, un homme et une femme? Ou bien y a-t-il des normes, des règles, des lois dans l'amour? Ou bien aimer indépendamment du genre, de ce que pensent les autres, des lois, des religions ou du regard des autres?
Un homme et une femme, c'est la norme. Ça, je pense qu'il faut juste le respecter. Mais après, c'est clair qu'il y a des personnes qui sont différentes. Et ça aussi, il faut le respecter.
On n'a pas à critiquer quelqu'un qui aime telle et telle personne ou pas, même si, par exemple, ils sont du même sexe. Ils aiment ce qu'ils aiment, quoi. Ça nous regarde pas.
Aimer, je pense que c'est le truc le plus libre qui est sur la planète. Et je pense que chacun a le droit de le faire à sa manière. Enfin, il n'y a pas de règles strictes ou de lois sur ça. Et je trouve que c'est bien dans l'amour, ce truc. Bon, chacun décide ce qu'il veut faire. Et si la personne est heureuse, tant mieux pour elle. En gros, tant qu'ils viennent pas m'embêter et à me convaincre d'être comme eux, enfin, tant qu'on peut être soi-même et aimer comme on veut, moi, ça me pose pas de problème. Si on nous impose une manière d'aimer, ça va barder.
Je pense qu'il n'y a pas vraiment de loi à part des problèmes éthiques, par exemple tout ce qui est illégal, par exemple la pédophilie ou ce genre de choses. Ça, c'est immoral. Mais par contre, tout le reste en soi, il n'y a pas de loi, que ce soit homme et homme, femme, femme, transgenre, avec une personne hétéro, peu importe. Il n'y a pas vraiment de loi là-dessus.
Je dirais que l'amour standard qu'on apprend... Enfin, dans la société d'avant, plutôt, c'est un homme, une femme. Mais enfin, de notre société actuelle, je dirais qu'il y a genre plein de choses différentes. Et en soi, tu peux aimer une personne sans te soucier de son genre. C'est hyper vaste.
On peut aimer un physique, mais on tombe premièrement amoureux d'une âme. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais ouais, d'une personnalité et de ce qu'elle est entièrement. Pour moi, ouais, il y a vraiment aucune règle dans l'amour, je pense.
Alors, Madame Gallet, il voit juste selon vous ?
Oui, je pense qu'il y a des visions justes dans l'idée que c'est d'être libre, qu'il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles, il n'y a pas... Effectivement. Après, aujourd'hui, effectivement, je pense que ça a évolué par rapport à avant. La société évolue. Cependant, il y a quand même toujours des choses qui se passent en lien avec l'orientation sexuelle qu'on peut avoir, on entend. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses, on entend les termes aussi, comment on peut nommer, donc comment on se sent. Donc ça permet aux personnes de se penser. Par contre, il y a quand même toujours beaucoup de discrimination, beaucoup liées aux stéréotypes, hein, aux stéréotypes de genre, aux stéréotypes d'orientation sexuelle. Donc il y a quand même, c'est pas si libre que ça, je pense, pour tout le monde. Le regard des autres, il est toujours important. Et donc les discriminations, les préjugés sont encore là. Et j'espère qu'on avance avec tout ça et que chacun peut se sentir libre, effectivement, de plus en plus d'aimer qui il aime.
Malgré tout, les jeunes commencent quand même à assimiler gentiment le fait que certaines personnes soient LGBTQ+. Est-ce que c'est aussi simple que ça, selon vous, ou pas du tout ?
Bah alors justement, c'est ce que je disais. Je pense que c'est pas encore aussi simple aujourd'hui. On peut se penser grâce aux termes, grâce à tout ce qu'on entend. Il y a plus de visibilité au niveau des médias. Par contre, c'est pas toujours facile. Il y a quand même toujours une pression au conformisme, surtout quand on est adolescent. Et donc, c'est pas toujours si simple de vivre ce qu'on vit. Et puis, on peut encore voir aujourd'hui dans les études que les personnes qui appartiennent à la catégorie LGBT, comme on peut dire, subissent quand même toujours beaucoup de harcèlement, d'injures, de violences même, et notamment à l'école aussi. Donc, c'est pas encore si simple de se sentir libre d'aimer qui on aime.
Et est-ce que vous voyez souvent des gens qui viennent vers vous pour avouer leur homosexualité ou quelque chose comme ça ?
Pas toujours, ça dépend. Alors c'est sûr que c'est... En tout cas, alors dans les classes, c'est plus difficile parce qu'on est en train de discuter avec toute une classe entière. Donc les personnes viennent rarement vers nous personnellement dire quelque chose. Par contre, dans les centres, donc à la consultation de santé sexuelle, là oui, il y a des personnes qui viennent discuter de ça parce qu'ils trouvent pas toujours la place ou l'espace pour le faire, que ce soit au sein de leur famille ou avec leurs amis. Donc ça permet de réfléchir, de voir comment ils peuvent avancer avec cela.
Il y a quand même une grande question que je me pose, et elle n'est pas simple, c'est de se demander à quel moment de notre vie, notre orientation sexuelle, elle se déclare ou se développe.
Eh ben encore une fois, hein, je donne pas beaucoup de réponses très précises, hein, je m'en rends compte, mais je crois qu'il y a pas vraiment d'âge, ça dépend aussi de chaque personne. Il y a des jeunes, des enfants qui vont dire rapidement que... ils peuvent être amoureux de l'autre genre ou du même genre qu'eux. D'autres, c'est à l'adolescence, avec la puberté. Et puis d'autres, des fois, c'est plus tard dans la vie. En sachant aussi que des fois, les choses, elles peuvent bouger dans la vie. Elles peuvent changer par la suite aussi.
Finalement, moi, en tant qu'ado, je fais comment pour savoir ce dont j'ai besoin quant à mon identité de genre ?
Ah ben, je pense que déjà, si on se pose la question de savoir ce dont on a besoin, c'est qu'on est déjà un petit peu conscient de ce qui se passe à l'intérieur de soi, justement. Donc déjà, rien que de se poser la question, c'est déjà super positif. D'être à l'écoute de son ressenti, d'être à l'écoute de ce qui se passe dans son corps, d'être à l'écoute de son cœur aussi, je dirais, justement, des émotions qu'on peut avoir. Et puis, plus on est proche de ça, plus on est à notre écoute, plus on pourra vivre ce qu'on ressent.
Justement, vivre, c'est l'amour, c'est beau. Mais parfois bien compliqué, ou plein de questions. Si j'ai une question précise, des doutes sur moi-même et mes envies ou besoins, des questions quant à mon identité sexuelle, si l'on a des questions sur tout ce qui est en lien avec l'amour, Peut-on appeler Profa ?
Bien sûr, Profa, on est là justement pour ça, comme je vous disais, pour accompagner aussi tout ce qui est en lien avec la vie sexuelle, la vie affective, la vie relationnelle. Donc il y a la consultation de santé sexuelle de Profa, vers qui on peut se tourner. Sinon après, il y a plein d'associations aussi, notamment voguer.ch, qui parle justement d'orientation, où il y a aussi la fondation Agnodisc, lorsqu'on se questionne sur son identité de genre. Et puis après, de manière générale, il y a aussi le site internet ciao.ch sur lequel on peut poser des questions anonymes. C'est des collègues qui y répondent dans les 48 heures en principe. Voilà, c'est quelque chose où on peut avoir des informations aussi en lien avec la sexualité.
Nous venons d'écouter Madame Gallet, formatrice chez Profa. Merci Madame Gallet. Et d'ailleurs, un grand merci à Thaïs pour la réalisation de nos micro-trottoirs. Une dernière chose. Vivre sans amour, c'est possible ? Madame Gallet, avant de partir, une réponse philosophique à nous donner ?
Est-ce que vivre sans amour, c'est possible ? Non, je pense pas. Mais dans le sens qu'il y a beaucoup d'amours différents aussi. Là, on a parlé beaucoup de l'amour amoureux, mais il y a aussi l'amour familial, l'amour amitié. Et on sait qu'un bébé qui naît, s'il reçoit pas d'amour, il se développe pas de manière, de la bonne manière, de manière optimale. Donc l'amour, oui, c'est important. Et ça bouge dans la vie. Et puis... Pour finir, alors, vous m'avez posé quelque chose de philosophique. Il y a une petite phrase que j'adore, que j'avais trouvée sur une carte que j'ai avec moi là aujourd'hui. C'est « L'amour change les règles du jeu ». Mais le jeu, J-E, le jeu. Et je trouve vraiment que c'est ça. L'amour, c'est aussi se confronter à soi-même, en fait, en étant confronté à l'autre. Et du coup, ça nous fait grandir et ça nous fait avancer dans la vie.
Pour nous, dans tous les cas, c'est impossible de vivre sans amour. On rejoint donc nos voix à ce dernier enregistrement. Vivre sans amour, jamais.
Peut-on vivre sans amour ?
Non, on peut pas vivre sans amour. Déjà, sans amour maternel, ni amical, c'est dur de vivre. Donc, on ne peut pas vivre sans l'amour.
Vivre le moment présent, chaque instant, et prendre tout ce qui nous arrive comme un cadeau, même les mauvaises expériences. Et l'amour, il fait compris. Autant les bonnes expériences que les mauvaises, les peines de cœur, ça nous apprend toujours beaucoup. Et l'amour, ça apporte beaucoup aussi dans la vie.
Je pense que chaque personne va aimer un jour, mais peut-être que pas forcément de la même manière. Enfin, ça me paraît un peu logique qu'on n'ait pas tous la même manière de s'exprimer et de ressentir des sentiments.
Je pourrais pas vivre sans amour, mais je pense que pour certaines personnes, c'est possible parce qu'elles sont très solitaires et... Elles n'ont pas besoin de ça, mais pour certaines personnes, c'est super important, donc je dirais que ça dépend selon la personne.
Non, on peut ne pas aimer, mais c'est un coup de foudre, c'est inévitable. Ça, on ne peut pas choisir.
Donc l'amour, c'est inévitable ou pas ?
Alors c'est une question, je pense que oui, parce que forcément autour de nous, il y a de l'amour partout. Par contre, si on parle d'amour à deux... Il y a des gens qui en ont pas besoin, mais ça reste important.
Je pense qu'un être humain, il peut pas vivre sans être aimé et il peut pas vivre sans aimer quelque chose. Enfin, sans aimer un autre être humain, c'est pas possible.
Les sentiments, ça a une grande partie dans et les émotions, ça a une grande partie qui joue dans le fait de vivre.
Vivre sans amour, ça enlève presque tout le bonheur que l'on peut avoir dans notre vie, je pense. Vivre réellement, profiter de sa vie, je pense, bah, c'est avoir de l'amour, aimer. Trouver le bonheur que chacun mérite.
Il est presque l'heure pour Énervé de rendre l'antenne et de rentrer en Vevez. En tout cas, nous, on a adoré venir ici, au studio RTS, pour vous parler de notre vision de la vie. On a appris beaucoup de choses sur nous-mêmes. Bien sûr, la vie est tellement vaste qu'on ne peut pas la décrire avec de simples mots. Il faudrait sûrement plus d'une heure pour vous parler de tout. Et bah, en tout cas, aujourd'hui, pour nous 15, les ados de la Énervé, vivre, ça a été la RTS. Quelle chance! Merci à Florence Farion, merci à Tania Titil et merci à tous mes camarades qui ont participé à cette aventure radio. Cher RTS, on te laisse reprendre les rênes.
C'est déjà fini, on n'a pas vu le temps passer.
C'était les élèves de Stéphane Simonet du cycle d'orientation de la Vevez à Châtel-Saint-Denis. Un grand coup de chapeau à Stéphane Simon.
Dans l'émission C'est la classe, vous avez entendu de la musique choisie par Willy Dezelu, aidé par les élèves des classes. Il y avait la réalisation José Moreno et Renaud Millet-Lacombe.
Infotrafic RTS.
Sur l'autoroute Lausanne-Genève, un accident provoque un bouchon entre Aubonne et Rolles en direction de Genève. Un retard d'un quart d'heure est à prévoir. Sur le site rts.ch/trafic, vous trouverez d'autres informations concernant le trafic routier.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS.
La première vous offre l'heure.
C'était C'est la classe et il est 17h sur la première.